Voilà. Content de vous voir tous. Et puis, nous allons continuer notre série d'études en Romains chapitre 12. Je vous avertis dès maintenant que si à la fin de l'étude, vous avez l'impression que, Steve, tu demandes beaucoup, hein, ben, c'est pas possible. Hein, si vous avez le sentiment que je suis en train de demander à une chenille de voler, eh bien, vous avez bien compris. Mais grâce au processus de métamorphose, une chenille peut voler. Hein, et aussi pour l'enfant de Dieu, s'il y a ce renouvellement de l'intelligence, eh bien, il peut vivre une vie autre, qui soit à la gloire de Dieu. Donc, Romains chapitre 12, et nous allons continuer là à partir du verset 16, où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Juste pour nous rappeler que la vie éternelle, ce n'est pas uniquement l'adhésion à une croyance. Hein. C'est la vie éternelle, ce n'est pas parce que bon, maintenant je crois certaines choses que je ne croyais pas avant, donc j'ai la vie éternelle. C'est plus que cela, ce n'est pas une assurance pour l'au-delà. Hein, ce n'est pas un contrat d'assurance. Je dis, bon, comme ça, quand je meurs, ben, je suis assuré. Il y a un peu de ça aussi quand même. Mais ce n'est pas ça. Cette vie nouvelle, eh bien, c'est un changement de comportement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. C'est-à-dire, si je suis venu à Christ et les gens autour de moi ne voient pas la différence, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, donc, c'est pour ça qu'il nous dit « ne vous conformez pas », et ça c'est le verset 2 hein, du chapitre 12, il dit « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nous avons vu donc dans le tout de suite après, à partir du verset 3, la première la première transformation que nous devons comprendre, c'est que celui qui a donné son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, eh bien, maintenant, la première chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il fait partie d'un corps, le corps de Christ. Et donc, dans ce corps, eh bien, il est membre. Et nous sommes membres les uns des autres, ce que nous avons vu. Et nous avons une fonction. Et donc, ce n'est pas seulement que nous avons une place. Et certains ils disent, ouais, moi, je remercie le Seigneur, j'ai ma place dans l'Église, dans le corps de Christ. Ben, ce n'est pas seulement une place, mais c'est une fonction qu'on a. Hein. Donc, Dieu a créé, nous sommes des organes, nous sommes des membres, et nous ne sommes pas seulement des briques dans un mur. Hein. Et même là, les briques ont une fonction. Et puis ensuite, nous avons vu donc à partir du verset 9, eh bien, jusqu'à la fin du chapitre, donc nous voyons ce comportement que nous devons avoir vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et bien sûr, déjà la semaine dernière, eh bien, on a vu que, bon, avec toutes ces petites phrases, là, ces petites exhortations, mais c'est quand même pas si évident à mettre en pratique. Hein. En fait, c'est impossible à moins que nous soyons ayant reçu la vie nouvelle et puis que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Hein, sinon, on est en train d'agir contre nature. C'est demander une chose impossible parce que ce n'est pas la vie chrétienne ne se vit pas par la discipline ni par la résolution, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et donc, nous allons commencer à lire. Je vais commencer à lire au verset 9 hein, jusqu'à la fin du chapitre, parce que toutes ces exhortations vont ensemble, même si nous allons commencer après au verset 16. Je lis au verset 9. Il dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et maintenant, verset 16, c'est à partir de là que nous allons commencer ce matin. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et d'autant autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le verset 16. Donc, une première chose, il nous demande de vivre selon l'humilité. Alors, dans notre monde aujourd'hui, l'humilité, c'est une denrée rare. L'humiliation, oui, on a tous souffert de l'humiliation. Ça, c'est autre chose. C'est celui qui s'impose et qui écrase un autre pour pouvoir monter. Ça, c'est autre chose. Mais l'humilité, ça, Jésus-Christ l'a vécu. Hein. Donc, Paul nous exhorte, premièrement, d'avoir le même sentiment les uns pour les autres. Je sais que dans l'usage de tous les jours, sentiment, c'est plus quelque chose que je ressens, c'est une émotion. Tandis que ici, dans la pensée du grec, hein, de l'époque, le sentiment, ben, c'est cette pensée que je décide à avoir. Hein, le sentiment, c'est pas quelque chose que je l'ai subi, puis j'essaie de vivre le mieux possible parce que j'ai des sentiments. Non, non. Dans leur pensée, et la pensée qu'il veut transmettre là, c'est une attitude que je décide de prendre, c'est une pensée que je l'adopte et je la vis. Hein, donc je prends, je ne suis pas passif et que je subis un sort, mais je prends cette décision et je domine la situation. Et bien sûr, le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs. Donc, donc il ajoute... Ici, ne vous laissez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est un choix. Normalement, naturellement, l'homme résiste à tout ce qui mène vers l'humilité et préfère ce qui est grand. Les gens qui ont l'attention, ben, tout le monde est là pour les admirer. Là où il y a de la foule, on aimerait se joindre à cette foule. Et il y a des gens qu'on appelle les stars, on appelle les dieux, on appelle les médaillés. On a toutes sortes de noms pour ces gens-là. Et puis on admire les jeunes garçons, ils sont là, puis ils ont leur footballeur. Et puis il voudrait être comme lui, mais il nous dit non, aspirez à ce qui est humble, recherchez cela. C'est pas il dit mais bon non mais Steve tu sais si on fait comme ça on va nulle part. Ah, peut-être pas, parce que Paul fait certainement allusion à ce qu'il a déjà dit aux Philippiens. Et regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens et au chapitre 2. Là aussi, il parle des sentiments, il nous dit d'avoir certains sentiments. Philippiens chapitre 2, et au verset... Je commence au début du chapitre, hein, pour avoir le début de la phrase. Donc, à Philippiens chapitre 2, verset 1, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde rendez ma joie parfaite. Comment ? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous, donc il ne demande pas une chose impossible, il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ensuite, si vous lisez la suite du chapitre, il nous dit, ben justement, Jésus-Christ, qui était dans la gloire, a fait ce choix de devenir homme. Pour lui, c'était vraiment l'humilité. Il est devenu homme, et de parmi les hommes, il est devenu le moindre des hommes, né dans une étable, mort comme un brigand. Mais parce qu'il a recherché cette humilité, et ce n'est pas évident quand on est Dieu de gloire, mais il a mis tout ce qui l'empêchait d'être humble de côté. Hein, c'est l'expression là, il s'est, dans le grec, il s'est vidé de pas mal de choses. Il a mis de côté certaines choses pour pouvoir devenir homme, pour être humble, pour être notre exemple. Et il nous dit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il a aspiré à l'humilité, parce qu'il l'a vécu, et pendant 33 ans, il a vécu cette humilité. Et humilité, pas seulement humble devant Dieu, mais humble devant les hommes. Eh bien, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes humbles que nous ne pouvons pas... Il vaut mieux attendre que Dieu nous élève. Hein. Et il nous dit comment être humble. Comment avoir ces sentiments ? Eh bien, il nous dit au verset 4 du Philippiens 2, il nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Aussi. Ce n'est pas négliger ses propres intérêts, mais c'est aussi considérer les autres. C'est ce que Jésus a fait. Ce n'est pas qu'il a tout laissé. Pendant un temps, il a laissé, mais après, il a retrouvé la gloire. Mais il a considéré nos intérêts. Et nos intérêts exigeaient de lui qu'il devienne homme, qu'il meure sur la croix, que son sang coule pour que notre bien. Donc Jésus est vraiment l'exemple suprême de celui qui ne s'est pas humilié pour humilier, mais qui s'est humilié pour pouvoir répondre à notre besoin. Il dit donc, c'est un mot qui gêne énormément parce qu'on a cette drôle d'idée, et ce n'est pas une question de se rabaisser. Jésus n'est jamais devenu, il est toujours resté Dieu, c'est seulement il ne l'a pas mis en valeur, mais il est resté Dieu, même en tant qu'homme, il était toujours Dieu, et ce n'est pas une question de je me prive de quelque chose, ou je me rabaisse, et non, c'est une question de je cherche l'intérêt de l'autre, c'est pas une question de se rabaisser, c'est une question de, surtout, c'est une question de reconnaître ce qu'on est. La tendance chez les hommes, c'est de prétendre être meilleur que ce que nous sommes. Et on veut que les gens nous voient comme étant plus que ce que nous sommes réellement. En fait, l'honnêteté, c'est d'être ce que nous sommes, tout ordinaire, tout simple. Et c'est beau, hein, l'ordinaire, le simple, surtout parce que c'est quand c'est vrai. Hein. On aime beaucoup maquiller, on aime toujours cacher, couvrir, on a tout, l'apparence, l'image que je projette les autres, et on fait de gros efforts pour cela. Mais peut-être qu'il faut se concentrer sur la personne elle-même, et puis après être vrai, et il n'y a rien de plus beau que cela. Et peut-être que si vous avez rencontré une personne que vous avez trouvée vraie, eh bien peut-être qu'ils n'étaient pas, ils tapaient pas à l'œil. Hein, ce n'était pas les gens qu'on trouve sur la couverture du Paris Match, mais vous avez, leur présence était agréable, parce qu'ils sont vrais. Hein, et c'est ce que nous recherchons. Donc il dit, c'est pas, quand il nous dit de chercher l'humilité, ce n'est pas une question de se rabaisser, puis de dire à tout le monde, moi je suis nul, je suis rien, je ne sais rien faire, écoute, ne me regarde même pas, fais comme si je n'existe pas. Non, ce n'est pas ça. Et il y a des gens qui parlent de cette manière-là. Hein, j'en connais certains milieux, mais ils sont tout le temps en train de se rabaisser. Je dis, mais tu te rabaisses comme ça tout le temps, bah, tu donnes une drôle d'image de ce que Dieu a pu faire chez quelqu'un. Rien que, laisse transparaître ce que Dieu, l'œuvre, que toi tu paraisses moins, que l'œuvre de Dieu paraisse plus. Et afin que le Seigneur soit glorifié. Alors, en fait, nous devons aspirer à ce qui est supérieur, il nous dit ici. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. À quoi est-ce que nous devons aspirer? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, et au dernier verset, il dit, je vous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Mais il a dit, je ne vais pas vous montrer un don, je vais vous montrer une voie, un mode de vie. Après, les dons s'expriment au travers, dans le cadre de ce... Donc là, il y a, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a une parenthèse. Il dit, il a commencé à parler des dons spirituels. Chapitre 14, il continue avec les dons spirituels. Mais entre les deux, il a dit, je vais vous montrer une voie, un cadre dans lequel vous voulez exercer vos dons spirituels. Et alors, vous connaissez bien 1 Corinthiens 13, ben c'est l'amour. Hein, et c'est l'amour. Et finalement, l'humilité et l'amour vont de pair. Lorsque nous aimons comme Dieu aime, eh bien, l'humilité doit être là. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime d'un amour qui se sacrifie, alors qu'on a cette image de nous-mêmes qui est au-dessus de tout le monde. Hein, c'est... Donc, l'humilité et l'amour vont de pair. Je vous rappelle ces passages. 1 Corinthiens 8, 1 nous dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Hein, » La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et dans 1 Corinthiens 13, il nous parle de cet amour. Et au verset 4, il nous dit « L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Hein, » Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Lorsque j'aime quelqu'un, je ne fais pas semblant d'être quelque chose. Finalement, je me rabaisse même pour l'aider. Hein, quand on aime un enfant, on est prêt à se mettre à genoux pour être à son niveau, pour pouvoir lui parler. Hein, c'est cette attitude-là, parce qu'on aime. Romains 12, verset 16 nous dit « Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Et 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ne soyons pas trop sûrs de nous, mais soyons confiants dans le Seigneur. Et laissons agir, donc si cet amour, l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, l'amour agit en moi, et si l'amour est en train d'agir en moi, l'humilité sera là, et cette attitude d'humilité par rapport aux autres, et les gens vivent facilement avec cela. Mais tandis que quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de fanfaron, ils sont pénibles quand même, je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais ils peuvent être pénibles, hein, parce qu'ils font tout bien, et nous on fait tout mal, ils savent tout faire. Et puis on ne peut rien leur dire, on ne peut rien leur apprendre, et c'est ça. Bon, après, quand le jour où il rencontre quelqu'un qui lui montre qu'il ne sait pas tout, en général, la chute est douloureuse, hein, parce qu'on tombe de haut, on commence à se croire quelque chose, et on se fait très mal quand on tombe. Mais ici, il dit... dans l'humilité, et c'est l'humilité, ça nous permet de servir les autres et aussi d'accepter le service des autres. Hein, et c'est cette attitude qui rend, et dans un corps où chacun a une fonction, eh bien, le fait de pouvoir servir et d'accepter d'être servi, eh bien, ça va très bien ensemble. Pierre nous dit quelque chose de semblable, hein, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Il nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Vous voyez, ça, Pierre reprend cette même pensée parce qu'elle est inspirée de Dieu. Mais vous voyez le mot, les mêmes pensées, l'amour fraternel, l'humilité, c'est des choses qui se retrouvent et qui vivent très bien ensemble et qui vont de pair. Et donc, bien sûr, ce n'est pas la pensée qui est promue de nos jours. Hein. Ce n'est pas ce que vous allez apprendre. On ne va pas vous dire, écoute, sois humble, sois toujours prêt à servir, aime tout le monde. C'est un peu, vous connaissez le monde dans lequel on vit. Hein. C'est un peu chacun pour soi. Et puis chacun son intérêt, chacun ce qui lui plaît, chacun son plaisir, chacun... Et puis, tant pis pour toi, hein, si tu oubliais ou si tu deviens une victime, ben tant pis. Hein, et alors, la vie est jalonnée de personnes, des victimes qui sont laissées là. Et la vie continue. Et puis, il y en a qui continuent. Puis, ils ont l'air de réussir et de continuer. Mais au bord de la route, ils ont laissé des accidentés. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a voulu. Hein, ce n'est pas ça qu'il a voulu. C'est la méchanceté du cœur de l'homme qui donne cela. Mais justement, c'est pour ça que Jésus-Christ a vu cela. Et c'est pour ça qu'il était prêt à mourir sur la croix pour nous apporter autre chose. Mais il dit, mais vous avez quand même, hein, parce que vous avez été éduqués dans ce monde, votre tendance est de faire comme eux. Et ce qui est presque ce qui est naturel, c'est de faire comme eux. Et si vous ne le faites pas, c'est parce que ou vous ne pouvez pas, ou vous n'osez pas. Mais il dit, si vous avez besoin de subir un renouvellement de l'intelligence, et après, vous pourrez vivre autrement. Et ce qui nous amène donc au verset suivant, le passage, et finalement les versets 17 à 21, c'est à peu près une même pensée. Et c'est cette pensée qui est exprimée au verset 21. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Finalement, c'est le principe de tout ce passage, 17 à 21, et même de tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Ne cède pas devant la pression du mal, mais réponds au mal, surmonte le mal par le bien. C'est pas ce qui vient naturellement. Mais c'est ce principe-là qui va réguler notre comportement vis-à-vis des autres et nos relations les uns avec les autres. La tendance naturelle, parce que nous sommes pécheurs et nous avons encore cette nature pécheresse, c'est de répondre au mal par le mal. Hein. Si vous ne croyez pas, ben allez à une cour de récréation. Et puis voyez ces jeunes, hein, là, il y en a un qui prend un coup, il rend le coup, hein, avant de réfléchir. On répond au mal par le mal, on répond au mal par des paroles blessantes. Et si on n'ose ni rendre physiquement le mal, et si on n'ose pas dire le mal, alors on le pense. Hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais la tendance naturelle, c'est rendre le mal pour le mal, selon nos moyens. Mais c'est pour ça qu'il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Parce que ce qui arrive, c'est que quelqu'un agit mal vis-à-vis de moi, et bien si je réponds par le mal, finalement je suis rentré dans son système. Lui il est dans le mal, et bien moi aussi je rentre là-dedans, et finalement je ne suis pas meilleur que lui. Et il m'a vaincu. Je veux faire que des bonnes choses, je veux vivre, je veux être en paix, tout ça. Quelqu'un arrive, et puis de la méchanceté de son cœur, il dit quelque chose, tout d'un coup je me retrouve dans son jeu. Il m'a vaincu. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Que ce ne soit pas lui qui impose sa manière de penser, son état, sur vous. et puis après vous rentrez dans son système et il vous domine et il vous a vaincu. Et puis surtout en tant qu'enfant de Dieu, finalement, tout d'un coup, j'ai fait une chute et je suis tombé dans un système qui est inférieur à celui de Christ. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Si je réagis selon la logique de l'agresseur, eh bien, il m'impose sa manière de penser. Si je fais comme... Après, je ne peux plus l'accuser. Hein. Si je suis rentré dans son système, je ne peux plus. Après, je ne peux plus le condamner puisque j'ai fait la même chose. Et je ne suis pas meilleur que lui. Tellement, on a l'habitude de faire ça que de nos jours, depuis les enfants jusqu'aux adultes, mais lui, il m'a frappé le premier. Lui, il m'a fait ça le premier. Et donc, comme si ça justifiait. Mais chez le Seigneur, ça ne justifie pas. Il dit, lui, il est responsable pour ce qu'il a fait. Toi, tu es responsable pour ce que tu as fait. Et finalement, on se retrouve tous un peu coupables là-dedans. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, ça n'a rien à faire avec les gens du monde. Eh bien, ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas d'autre option que d'agir de cette manière-là. Parce qu'ils n'ont pas la vie nouvelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas le Seigneur. Donc, pour eux, bah, c'est comme ça. C'est la vie et c'est le monde dans lequel on vit. Et je parlais avec un frère... hier après-midi, puis il me parlait de cette personne qu'il a rencontrée, qui sa vie était démolie, elle n'arrivait plus à vivre heureuse, tellement elle était préoccupée par le comportement des gens. Et bon, c'est vrai, ce qu'elle voyait, ce qu'elle évaluait, comment elle évaluait les choses, c'était tout à fait vrai. Mais sa vie était démolie par les autres. Il lui dit, non, tu n'es pas responsable pour eux, tu es responsable pour toi. Vis au-dessus, vis un autre principe de vie et tu seras heureuse, même dans ce monde. Et c'est ce que le Seigneur nous propose. Et c'est une libération. Paul nous exhorte à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, il nous dit. C'est quoi ce qui est bien devant tous les hommes? Si je continue à lire le passage, il dit, verset 18, donc Romains 12, verset 18, dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il comprend que parfois, on n'arrive pas. Même si on veut être en paix avec quelqu'un, il n'y a pas moyen. Hein. Lui, il ne cherchait pas à créer des ennuis pour Rome, hein, mais bon, Rome était toujours derrière lui. Hein, il se retrouvait souvent en prison. Il a dit, autant que c'est possible, bon, on essaye de garder, de vivre, mais bon, autant que cela dépende de vous. Ce qui est bien, eh bien, c'est cette paix. Et de vivre en paix avec les autres autant que se peut. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. C'est le sermon sur la montagne, quand Christ a enseigné ses disciples. Matthieu chapitre 5, et nous allons lire les versets 38 à 48. Matthieu 5, verset 38 dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. » Donc ce principe œil pour œil, dent pour dent, hein, c'est ce qui est communément connu comme la loi du talion. Hein, c'est-à-dire, je te rends exactement ce que tu m'as fait. Hein, œil pour œil, dent pour dent. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, on vous a appris cela, mais moi, verset 39, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille ou un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Dieu qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ou les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits ou accomplis comme votre Père céleste est parfait. Et donc, je dis, écoutez, c'est tout un autre principe de vie. Les gens se comportent d'une manière, ils agissent selon une loi, nous, ils agissons selon une autre. Et nous réagissons selon une autre. Et donc, ce n'est pas du tac au tac, c'est tac, et puis on répond par l'amour. Et là, ça commence à devenir compliqué, Steve. Là, tu ne sais pas où tu vis, toi. Mais écoutez, à partir du moment où vous vivez avec quelqu'un, vous aurez l'occasion de le pratiquer. Hein. Même si c'est l'époux ou l'épouse. Hein, on est là. Hein. Là, à partir du moment qu'on a affaire avec des humains, eh bien, on a possibilité d'exercer ce principe. Et donc, il nous dit de rechercher la paix autant que cela est possible. Rechercher la paix. La paix, c'est pas seulement le silence. La paix, c'est quand tout fonctionne normalement, comme Dieu l'a prévu. Je vais vous lire quelques versets, juste une collection de versets qui, pour vous donner une idée de comment ce que Dieu pense de la paix et de ceux qui sont pacifiques. Pas pacifiste, mais pacifique. Alors, Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ça, c'est pas mal, hein. Mais « Heureux ceux qui procurent la paix », c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'ils font rien pour gêner les gens qui font pas la guerre, ça, c'est les pacifistes. Mais, il dit, « Mais ceux qui procurent la paix, c'est dire, c'est pas que tu n'es pas un thermomètre qui indique ce qui se passe, mais tu es un thermostat qui impose quelque chose. Hein, c'est ça que nous devons être, là où nous sommes. Hein, c'est moi, eh bien les choses sont différentes parce que je suis là. Alors si ça commence à chauffer, et puis il y a des échanges, et puis après moi, par une parole douce, ça, les choses se calment, eh bien j'ai eu de l'influence. Et dans le bon sens. Et puis après, tout le monde nous remercie. Hein, je sais pas, j'ai été souvent dans les postes, dans le 93, à la poste, il y a des queues, et puis ça commence à chauffer là-dedans très souvent. Je crois que j'ai jamais visité la poste sans qu'il y ait eu quelque chose. D'échange. Et ben, on va voir la personne, et puis on l'encourage de se calmer, et puis attendre, et puis ça, on ira tous plus vite s'ils ne se disputent pas. Hein, parce que dès que ça chauffe, il n'y a plus rien qui se passe, et on attend tous plus longtemps. Hein, donc c'était un peu dans mon intérêt aussi, hein, qu'ils se calment. Mais finalement, on leur rend service. Hein, parce qu'ils ne savent plus comment s'arrêter. Tandis que si quelqu'un vient et lui dit, écoute, bon, ça va, tu as dit ce que tu penses, voilà, maintenant c'est dit, ben voilà. Et finalement, on leur rend service. Hein, et combien de situations sont comme ça? Je lis 1 Timothée 3, 3, il nous dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, parlant de responsable d'église, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous avez vu la collection qu'il met, ce qu'il suggère, en contradiction à ce qui est adonné au vin et violent, il dit qu'il soit indulgent, pacifique, désintéressé. Et ce qu'il demande des responsables d'église, ben c'est pour tous les membres de l'église, hein, pour tout le monde. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Jacques chapitre 3 verset 17 dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Et il met « pacifique » dans cette liste. Hein, il dit « C'est ça la sagesse d'en haut. » Romains 10, 13 nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds il ne regarde pas la tête, il dit, ah, c'est les qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Romains 14, 19, il dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc quelque chose d'utile, de constructif, d'édifiant. 1 Corinthiens 13, 11, il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu d'amour et de paix. Vous voyez comment ces deux aspects sont là ensemble. Et donc, on peut pas, s'il n'y a pas paix, on ne peut pas prétendre amour. Et si on a l'amour et puis il n'y a pas de paix, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. C'est deux choses qui vont ensemble. Et Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, sans élaborer sur ces versets-là, mais on a l'impression que ça fait partie de ce que Dieu demande de nous. Lui, c'est le Dieu de paix, il nous offre la paix, mais il dit maintenant, vous la transmettez autour de vous. Et soyez un élément qui apporte la paix autour de vous. Donc une parole dure, on répond avec une parole douce, et tout d'un coup, choup, hein, on a mis du, les choses ont diminué déjà, hein, le feu il a baissé. Et puis si je continue avec des paroles douces, le feu il baisse. Et puis après, on a un climat qui permet la discussion. Hein, tant que c'est chaud, on n'accomplit rien du tout. Hein. Finalement, après, on dit des choses et... Ah, et après, les gens, ils se souviennent de tout ce qu'on a dit quand on était sous la colère. Et ils ne l'oublient pas. Donc, il vaut mieux que les choses se calment. Hein. Nous avons eu et nous aurons tous des opportunités pour cela. Hein, donc, comptez dessus. Et il faut autant décider à l'avance. Et le mal ne jamais... régler les problèmes. Hein. C'est combien de fois on fait appel à la guerre pour régler un problème et la guerre n'a jamais réglé quelque chose. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau mondial, ça n'a jamais réglé ou ça a créé d'autres problèmes. Hein. Et si vous ne le croyez pas, lisez votre journal. Hein. Mais après, il ajoute, il a dit « Recherchez la paix », mais il dit « Surtout, ne vous vengez pas hein, ». Donc, on retourne dans Romains chapitre 12. Il dit « Ne vous vengez point vous-même. Et laissons à Dieu de rétablir la justice. » Vous savez, quand nous prenons la situation en main et on essaie de faire justice, et il m'a dit quelque chose, je lui ai dit quelque chose. Et oui, mais rien n'a été réglé. Mais Dieu dit, mais puisque toi, tu as voulu régler la chose, eh ben, je te l'ai laissé, moi je ne touche plus. Tandis que si je n'essaye pas de régler la chose, mais c'est-à-dire régler la chose dans le sens de juger et de me venger, mais si je dis, Seigneur, je te remets cette situation, et c'est toi, tu as entendu ce qui a été dit, tu as vu ce qui a été fait, je te remets tout cela. Après, il dit, bon, là, je peux intervenir. Et c'est à lui, il choisira quand il peut intervenir et comment il va intervenir. Souvent, nous, on aimerait qu'il intervienne tout de suite, mais bon, il leur fait grâce, il leur donne le temps pour se repentir, comme combien de fois il nous a fait grâce et nous a donné le temps de nous repentir aussi quand on s'est mal comporté. Hein. Parce que s'il y a la foudre qui tombe chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, la plupart d'entre nous, on ne serait pas là. Hein. Donc... voilà, hein, Dieu est obligé de nous traiter tous pareil. Donc il nous dit, laissez agir la colère, sous-entendu la colère de Dieu, hein, parce qu'après il fait cette citation de Proverbe, et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, la citation de Deutéronome. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, laissez-moi faire. Dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 43, il nous dit « Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Donc il dit, laissez-moi faire. Hein, c'est moi qui règle ces choses et il a des moyens pour le faire. Donc n'ayons pas recours à notre colère, parce que nous dit Jacques 1, verset 20, nous dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » En général, quand on est sous la colère, en général, la punition est au-delà de la faute. Hein. C'est, on n'est pas dans la colère, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre partenaire, que ce soit avec le voisin, que ce soit... En général, on va trop loin. Hein. Sous la colère. Donc, quand c'est calme, les choses sont calmes, là, on peut être plus logique et puis souvent, on dit « laisse tomber ». Alors, quelques versets concernant la colère, parce que de nos jours, parfois, on laisse aller la colère et puis on permet aux gens de se mettre en colère et on ne leur rend pas toujours service. Mais voilà quelques versets. Jacques 1, 19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Hein? » Il y en a que, il y a quelque chose, et puis paf, c'est parti. Et dit « Ah, j'en peux rien, hein, la colère. » Si, si. Vous savez, quand vous êtes en colère à la maison, puis le téléphone sonne, vous prenez le téléphone, « Allô, comment allez-vous ? » Tout d'un coup, on change de ton. La preuve qu'on peut contrôler la colère. Hein? Donc, si ça continue, c'est notre faute. Hein, il ne faut pas dire « Ah non, je ne suis pas là, je n'arrive pas, c'est parti. » Non, 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 on peut. Hein? Même sans être chrétien, on peut le faire. Donc, ne nous servons pas de cette excuse-là. Il dit, donc, l'un se mettre en colère. Et si on se met en colère, il vaut mieux se mettre en colère à cause d'une injustice chez quelqu'un d'autre que chez soi-même. Parce que quand c'est chez un autre, en général, c'est justifié et là, on rend un service. Hein. Parce qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est l'injustice chez un autre. Un autre verset, Éphésiens 4, 31, nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça veut dire que c'était, mais que ça ne doit plus être. Éphésiens 4, 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, réglez-le avant le coucher du soleil. Le sommeil sera meilleur. Hein? Vous ne serez pas obligé de prendre autant de cachets. Régler, ça veut dire régler le problème, hein, régler cette colère. Et puis, souvent, après, pour commencer à régler les effets de la colère, en général, c'est demander pardon hein, que ça commence. Et ce n'est pas agréable. Et puis aussi, 1 Timothée 2,8, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Il dit, si tu as de la colère en toi, si tu as des mauvaises pensées, tu ne peux pas prier, hein, ce n'est pas la peine. Va régler la chose. Hein, par ailleurs, Jésus a dit, hein, tu es là devant ton offrande et puis tout d'un coup, tu te souviens qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Quelqu'un a quelque chose contre toi ou tu as quelque chose contre ton frère. Il dit, laisse là ton offrande, va le régler, puis après, reviens me parler. Alors, ici, dans ce chapitre, il nous dit ben justement la vengeance, pas. Mais au verset 20, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Ce matin, je lisais un événement qui s'était passé dans la communauté Amish aux États-Unis. Cette personne qui n'était pas Amish, qui vivait au milieu de cette communauté, vivait bien, mais un jour, son fils est allé à l'école primaire et rentré là-dedans et puis a sélectionné, une demi-douzaine de fillettes et les a tirées dessus. Bon, il en a tué que trois sur les six, les trois autres étaient blessés. Et cette femme, elle s'est dit, oh, maintenant, comment je vais vivre dans cette communauté? Ils vont me rejeter. Ils vont pas vouloir de moi. Mais ce qu'elle a vu, c'est que tout de suite, le jour même, la communauté est venue vers elle. On dit, mais vous souffrez parce que votre fils a fait cela. Et nous voulons vous consoler dans votre souffrance. Et elle a dit, même il y avait des mamans de ces fillettes qui étaient là et partager la souffrance. C'est, vous savez, je ne suis pas en train de promouvoir les Amish, mais je suis en train de dire, si les Amish peuvent le faire, et nous aussi on peut le faire. Et le pardon, ça permet de surmonter beaucoup de choses. Et ça n'aurait rien à ranger de faire souffrir cette pauvre dame pour rien, pour son fils. Mais même dans l'Écriture, il nous dit, les parents ne doivent pas souffrir pour les péchés des enfants, ou ni les enfants pour les péchés des parents. C'est le pardon, ça nous permet de surmonter ces situations et finalement de prendre le dessus. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Il nous a apporté ce qu'il avait de meilleur quand on était ennemis. Comme disait quelqu'un récemment, il dit, s'il a fait ça quand on était ennemis, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant que nous sommes ses enfants? Alors, il dit, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, ce sera la confusion, Il rougira de honte de son comportement si tu lui réponds avec amour. Et ça, c'est une citation de Proverbe 25. Vous savez, ces exhortations-là sont là, elles viennent du Seigneur, le Seigneur l'a pratiqué, il suffit de regarder la vie du Seigneur et de voir que lui, il a pratiqué tout cela. Il ne demande pas ce qu'il lui n'a pas fait en tant qu'humain. Et il nous encourage à vivre et à conquérir cette tendance universelle et à rechercher ce qui plaît au Seigneur, surtout si nous avons offert notre corps en sacrifice vivant au Seigneur. Nous devons subir cette transformation. Pour conclure, je vais lire ce passage de 1 Pierre chapitre 3, finalement, il reprend exactement toutes ses pensées. Et il les exprime, 1 Pierre chapitre 3, on a déjà lu le verset 8 et on va continuer jusqu'au verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 nous dit ainsi, enfin, soyons tous animés de même pensée, de même sentiment, de plein amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je crois que c'est assez clair. Et bien sûr, dites, mais bon, oui, je comprends. Si on n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, si on n'a pas eu le pardon de nos péchés grâce au sang versé de Christ, si on n'a pas demandé, il suffit de le demander pour l'avoir. Mais si on n'a pas encore cela, et si on n'a pas cette vie nouvelle en nous, bien sûr, c'est impossible. C'est contre nature, c'est demander à une tortue de voler. C'est pas possible. Mais si nous avons reçu le Seigneur Jésus, si nous avons réellement reçu le Seigneur Jésus, nous avons cette vie nouvelle, elle veut s'exprimer en nous et elle veut vivre la vie que Jésus a vécue, comme il l'a vécue. Et dans ce sens-là, on ne ressemble plus à ceux qui nous entourent et ils vont le noter, ils vont le remarquer. C'est le seul moyen de rendre gloire, et c'est de cette manière-là qu'on rend témoignage de ce renouvellement de l'intelligence. Je ne pense plus comme avant. J'ai rempli l'ancien passé, l'ancienne manière de penser, je l'ai remplacée par une nouvelle manière de penser. J'ai adopté celle de Dieu, la sagesse d'en haut. Et donc, je veux vivre en disciple de Christ. C'est-à-dire, je vis la vie du maître que j'ai adopté. Que le Seigneur nous aide. Si vous n'avez pas le Seigneur, demandez-le de vous sauver par le sang versé sur la croix. Et si nous sommes enfants de Dieu, demandons au Seigneur de vivre sa vie en nous et de vivre selon ce principe nouveau. Prions. Je vais prendre quelques instants de silence, que chacun puisse déjà, s'il y a des choses que le Saint-Esprit vous a montrées déjà, et dites: Seigneur, aide-moi avec ceci, avec cela. Je veux plus de ceci, je veux plus de cela. Quelques moments de silence et ensuite je continuerai par la prière.